connais William Faulkner?
Non. Qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey.
Les Hommes de l'Ombre, l'émission historique qui met au jour les personnages oubliés de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Et c'est de Jacques Faucard que nous allons parler aujourd'hui. Le monsieur Afrique du général de Gaulle et du président Pompidou a depuis bien longtemps fait l'objet de fantasmes nombreux. Son influence sur les chefs d'État africains qu'il connaissait personnellement a beaucoup joué dans l'image de manipulateur qui s'est formée autour de lui.
L'action de Faucard est sans doute à jamais entachée du soupçon du complot, de l'atmosphère du crime. Celui dont on ne cesse de vanter les réseaux, ou la méthode, a réussi à s'imposer auprès de Charles de Gaulle comme un homme de confiance, au point de devenir les yeux et les oreilles du général dans les affaires africaines et malgaches.
Discret, prudent, disponible et dévoué, ce baron du gaullisme a su faire face aux nombreux enjeux issus de la décolonisation et des indépendances. Grand utilisateur des services de renseignement, il a placé par-dessus tout la nécessité d'avoir des informations fiables. Entre ses réseaux personnels et les services secrets, Jacques Faucard a ainsi su entretenir autour de lui le mystère de la puissance.
C'était un monsieur impressionnant, hein, Faucard. Il avait un visage assez, sans mouvement, quoi, figé, quoi, hein, avec un drôle de regard en plus. Et puis moi, à l'époque aussi, j'avais 30 ans, quoi, ces mecs-là, ils m'impressionnaient, quoi.
Bonjour Gaspard.
Bonjour Simon.
Alors, ce Jacques Faucard apparaît de façon assez évidente, comme un homme de l'ombre.
Oui, et sa place dans cette émission ne fait guère de doute, d'abord bien sûr par sa personnalité, sa discrétion légendaire et sa grande prudence, on fait de lui un interlocuteur difficile à comprendre. Ces deux traits de caractère ont sans doute été renforcés par les combats de la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale et par son passage dans les services secrets de la France libre.
Tout à fait, et son côté ténébreux a été accentué bien sûr par toutes les activités auxquelles il s'est livré. On a toujours eu le sentiment qu'il trempait dans quelque chose de louche. Le financement du parti gaulliste grâce aux fonds récoltés par sa propre entreprise d'import-export, les projets de coup d'État dans divers pays africains, sa participation à la fondation du SAC, le service d'action civique, une milice défendant les idées de De Gaulle, et j'en passe. Bref, Faucard s'est investi dans des affaires pas tout à fait nettes.
Mais en même temps, ça lui a permis de mener un travail de profondeur sur le terrain, que ce soit aux Antilles ou plus tard en Afrique. C'est ça qui l'a rendu indispensable à De Gaulle. Il avait une connaissance aiguë des réalités locales.
Oui, et ça lui permettait de mettre en œuvre ce que lui demandait le général, à savoir consolider le pouvoir des dirigeants qui jouaient le jeu de l'amitié franco-africaine,
faire pression sur ceux qui regardaient un peu trop dans d'autres directions,
et contrer les ambitions des puissances concurrentes dès lors qu'elles étaient considérées comme menaçantes.
Le but, au fond, c'est de faire de la France une sorte de grande sœur protectrice des républiques africaines nouvellement indépendantes.
Cela passe bien sûr par des interventions militaires, au Gabon, au Nigeria, au Tchad. Mais la philosophie sécuritaire de Faucard ne se concentre pas seulement là-dessus. L'armée est un moyen, et pas toujours un moyen immédiat. Parfois, les crises politiques peuvent se dénouer sans intervention militaire. Et d'autres fois, Faucard ne voit tout simplement pas d'intérêt à faire intervenir l'armée, car le changement politique peut lui convenir.
Et puis surtout, il prête bien davantage confiance aux services de renseignement et de sécurité qu'à l'institution militaire. Avoir des informations locales et quotidiennes, pouvoir influer sur la gestion au jour le jour d'un pays, c'est ça qui caractérise la méthode Faucard.
L'autre versant, c'est l'utilisation de ses réseaux personnels, nombreux et ancrés de longue date dans sa vie. Et si la plupart de ses informateurs lui restent fidèles, c'est parce que Faucard, en homme de parole, les aide dans leur carrière. Il accède ainsi très souvent aux demandes de promotion ou de mutation professionnelle.
Bref, on a ici un homme politique et pragmatique qui n'a pas le temps de se soucier de morale ou d'éthique. La seule valeur qu'il veut bien reconnaître, c'est la nécessaire grandeur de la France, et c'est pour cela qu'il admirera tant De Gaulle.
Et dans le même temps, il se plaira à couvrir toutes ses actions du voile du secret.
Oui, et ça a contribué à alimenter les rumeurs sur ses activités. Aujourd'hui, alors que les archives se multiplient sur ce personnage, il est temps de le découvrir plus en profondeur. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui sur Radio Campus Paris, la vie du plus proche conseiller de De Gaulle, passé par tant de mystères et de secrets.
Il nous avait dit, pour aller chez moi c'est un peu compliqué, adressez-vous aux gendarmes, ils ont l'habitude. Lui se tenait là-haut, dans une pièce surnommée par les grands de ce monde, la case au miracle, ou plutôt au souvenir, la résistance avec la grenade qui ne le quittait pas au cas où on l'aurait capturé, et surtout les témoignages de ses allées et venues sur un certain continent. Bref, le résumé d'une existence.
Ma vie, c'est De Gaulle et l'Afrique.
Près de 30 ans passés dans les plus hautes sphères de l'État. Années 50, 60, 70, Rocard est omniprésent. La décolonisation et la politique intérieure. Il est partout mais invisible. Homme de l'ombre, il sait se fondre dans les cérémonies officielles. Il est pourtant bien là. Il savait tisser sa toile, Focard et sa réputation de prince des réseaux.
Jacques Cor Focard est né le 31 août 1913 à Ambrières-le-Grand, dans le Pays de la Loire.
Jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'est pas élevé par ses parents. Il grandit dans son département natal, la Mayenne, chez de la famille proche.
Effectivement, ses parents, Guillaume Cor Focard et Elmire de Courtemanche, vivent en Guadeloupe, dans la commune de Gourbeyre, en créole Goubet. Le père de Jacques Focard a été maire de cette commune pendant 13 ans. Et c'est quand Jacques a 3 ans que ses parents l'emmènent avec lui en Guadeloupe. Il y vivra jusqu'à l'âge de 6 ans.
Et cette enfance antillaise marquera profondément Jacques Focard. Elle est à l'origine de son futur investissement dans les affaires d'outre-mer pendant les années 50.
Tout à fait. Cela lui permettra de retrouver un pays, un climat, une culture qu'il connaissait déjà plus ou moins. Car la Guadeloupe et la France gardent des liens privilégiés.
Oui, en effet, la Guadeloupe est d'abord une colonie française et elle devient un département d'outre-mer en 1946. Focard ne connaissait rien à l'Afrique, mais il s'est intéressé aux colonies africaines, d'abord pour le goût de l'ailleurs qu'il y trouvait, cette même saveur qui a marqué son enfance antillaise.
Ses liens avec l'étranger influenceront grandement toute sa vie, ses actions, ses métiers, ses préférences, et d'abord ses études.
Oui, il les passera entièrement dans le même établissement, le lycée de l'Immaculée Conception à Laval. Et elles lui permettront de se diriger très vite vers les questions de commerce avec l'outre-mer.
Il finira d'ailleurs par créer sa propre entreprise d'import-export.
Et il fera plus que ça, puisque la SAFIEX, c'est ainsi qu'elle se nomme, lui permettra d'établir et de faire fructifier ses réseaux dans les dépendances françaises non métropolitaines.
Il y a un côté quasi pathologique chez Focard dans cette capacité inouïe à sans cesse se créer des amitiés qu'il réutilisera plus tard. Alors on sait bien sûr qu'il était assez discret. Par exemple, il n'a jamais cherché à contrôler un parti politique. Mais tranquillement, dans son coin, il mettait en place tout ce qui sera nécessaire pour organiser les affaires africaines et malgaches sous le général de Gaulle.
Oui. Mais même s'il cherchait à connaître, au fond, le plus de monde possible, pour autant, il avait une forme d'éthique très stricte dans l'amitié. Il plaçait la confiance par-dessus tout. En réalité, il était très difficile de devenir l'ami de Focard, ami au sens commun actuel.
Ça n'empêche pas Jacques Focard, dans ses premières expériences en entreprise dans les années 30, de découvrir le fonctionnement d'une hiérarchie, de comprendre les enjeux des échanges commerciaux, de saisir que pour réussir une négociation, il faut savoir céder à certaines revendications.
Il saura appliquer ses recettes tout au long de sa vie et de son parcours politique. Il apprend ainsi à récompenser les membres de ses réseaux qui l'aident, notamment par des promotions de poste.
Ce qu'on est allé jusqu'à appeler la méthode Focard est au fond très simple. Tu m'aides, je t'aide en retour. Focard a réussi à obtenir l'influence et la puissance qu'il fallait pour apparaître comme celui sur lequel on peut compter du moment qu'on lui rend des services.
Car non seulement, comme on l'a dit, la confiance est importante pour Focard, mais surtout, il a hérité de son passage dans le service militaire un certain sens de l'honneur.
Alors, peut-être pas toujours moral.
Non, en effet, Focard est bien plus intéressé par la politique, par les stratégies de pouvoir, que par des questions éthiques ou morales. Il n'empêche, il reste concentré sur un objectif qui est celui de la grandeur de son pays.
En ce sens, il est l'héritier, un peu moins réac, de toute une tradition politique française soutenant l'idée d'une plus grande France, une France qui s'étend par les colonies. Évidemment, il faut actualiser ça dans le cas de Focard. Lui-même a reconnu qu'on ne pouvait pas revenir en arrière sur la décolonisation. Mais son objectif, en particulier dans les années 60-70, de façon plus générale tout au long de sa vie, c'est de maintenir des relations privilégiées avec les anciennes colonies françaises.
Et c'est pour ça qu'il adulera tant De Gaulle et sa certaine idée de la France. On écoute Jean Lacouture.
Je crois que Focard était un républicain, je crois qu'il était un dévot du général, un dévot de la présence de la France en Afrique, pour la première divinité de Gaulle comme pour la seconde, la France-Afrique, je crois que Focard aurait fait n'importe quoi.
Et au fond, cette admiration sans borne pour l'homme du 18 juin trouve son origine dans la Seconde Guerre mondiale. Si dans les premiers temps de la guerre, il fonde et fait fructifier une affaire d'exploitation de bois, très vite, il se tourne vers l'action concrète contre l'oppression des Allemands. En 1942, il prend contact avec les réseaux de la résistance. Il devient assez actif et finit par fonder en 1943 son propre réseau de résistance, le réseau Action Tortue Focard. L'objectif, c'est de préparer les individus de ce réseau à harceler les Allemands dès le débarquement en Normandie. Celui-ci n'interviendra, comme on le sait, qu'en juin 1944. Mais c'est une opération de longue date. Et Focard, qui vit dans le pays de la Loire, se tient prêt à lancer l'offensive. Plusieurs choses sont intéressantes dans le rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, il apprend à se faire des réseaux non plus seulement de type commerciaux, comme dans les années 30, mais aussi des réseaux à portée politique et militaire. Et ça, c'est très important, notamment parce que son action de Monsieur Afrique, dans les années 60 et 70, se concentrera sur des questions diplomatiques et stratégiques.
Mais Focard ne va-t-il pas encore plus loin ?
Et si, en 1943, il rejoint le bureau central de renseignement et d'action, le BCRA. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, rien de moins que les services secrets de renseignement et d'action clandestine de la France libre, établis à Londres.
On sait que tous les agents secrets ont un code. Quel fut celui de Focard ?
Oh, de façon pas très extraordinaire, on le nomme Binot en référence au boulevard Binot où il a habité quelque temps. Mais plus intéressant que son surnom, il y a son action. Focard apprend à organiser des réseaux. Il découvre comment créer les liens, assurer les liaisons, bref, il apprend à être un agent secret.
Et je pense qu'on peut dire qu'il y trouvait un réel plaisir. Ou plus exactement, plus tard, il se plaira beaucoup à se faire passer pour un agent de l'ombre, un homme mystérieux. Pendant la guerre, c'était une contrainte et il y avait beaucoup de risques. Les risques sont partis, une fois la guerre achevée, car il entre dans le confort de l'administration. Mais faire croire qu'on détient des informations secrètes, c'est changer la contrainte en une forme de jeu.
Et d'ailleurs, un journaliste qui lui posait une question un petit peu délicate, il avait dit de façon assez désinvolte « Les archives répondront un jour à votre question ». Bref, Focard a toujours aimé entretenir le goût du mystère autour de sa personne et des informations qu'il détenait. Et ça, c'est quelque chose qu'il a appris pendant la guerre, car il était obligé de le faire.
Et d'ailleurs, juste après la guerre, il met au point tout seul un langage codé.
Oui, et il le renouvellera constamment. Dans la première version en 1947, fraude électorale se dit « fête », alliance politique se dit « soirée », le général de Gaulle est appelé « Pierre », et le Parti communiste français se nomme Joseph, sans doute en référence à Joseph Staline.
Bref, un message de Focard de 1947 qui dirait « Organiser une fête pour que Joseph ne soit pas devant Pierre » voudrait concrètement signifier « Faites en sorte de frauder pour que De Gaulle ait plus de voix que le PCF ».
Après la libération, Focard est entré dans les services de renseignement, non plus de la France libre, mais cette fois-ci de l'État français reconstitué. Il intègre ainsi le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE.
Il commence alors à mener diverses missions spéciales jusqu'à la fin de la guerre, et il est finalement démobilisé le 1er juin 1945.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h, sur Radio Campus Paris.
La guerre est donc un moment quasi initiatique dans la vie de Focard. Et ce qui montre qu'il commence véritablement à devenir celui qu'il sera plus tard, c'est qu'en 1944, il crée sa propre affaire, une société d'import-export avec les Antilles. En 1945, elle prend le nom de Safiex.
Elle va notamment lui être utile pour installer la cause gaulliste dans le cœur des habitants d'outre-mer.
Et c'est pas gagné. En effet, au début des années 50, les gaullistes apparaissaient comme d'affreux réacs qui mettaient des freins aux avancées économiques et sociales. La Safiex va permettre de collecter de nombreux fonds. Ceux-ci seront injectés dans la communication aux Antilles au profit du parti gaulliste, le RPF, Rassemblement du Peuple Français.
Oui, mais sa principale préoccupation dans l'immédiate après-guerre, c'est d'acquérir petit à petit la confiance du général de Gaulle. Alors, il ne faut pas imaginer qu'il s'agit là d'un calcul politique. Focard est entièrement séduit par la figure et les idées de Charles de Gaulle. Et il va s'agir, pour notre ami Jacques, de montrer au général qu'il est le plus compétent sur les questions extra-métropolitaines.
C'est ainsi que commence l'ascension de Jacques Focard au sein de l'appareil gaulliste. D'abord, il est affecté aux Antilles et à la Guyane en tant que responsable de l'implantation du Rassemblement du Peuple Français, comme je l'expliquais à l'instant.
Ce monde à la sortie de la guerre est assez singulier. En effet, il est en train de se transformer et de passer d'un monde de colonies à un monde de départements d'outre-mer. Dans cet univers en changement, Focard se distingue des autres gaullistes. En effet, il peut compter sur une certaine compréhension intuitive des réalités locales, du style de vie et de l'environnement socio-culturel. Cela vient d'impressions qui lui restent de son enfance antillaise.
Focard, on le voit, est intéressant dans sa connaissance de réalités extérieures à la métropole. C'est encore rare à l'époque et ça lui permet de monter rapidement en grade. Dès 1949, il est ainsi nommé à la tête de tout le secteur ultramarin du RPF, ce qui comprend à l'époque l'Afrique noire.
Il a plus tard admis lui-même qu'à l'époque, il ne connaissait rien à l'Afrique. Mais il va apprendre très vite.
Oui, il est bien obligé. Et puis à côté de ça, il commence à mettre en œuvre ce qui a été mythifié plus tard sous le terme de méthode Focard. Qu'est-ce que c'est ? Pour en donner une première approche, on peut dire que c'est une perception politique des réalités extra-métropolitaines fondée sur une présence locale très forte. En gros, il s'agit de savoir ce qui se passe vraiment dans la vie des gens, ce que veulent les chefs de clan, les petits dirigeants, les intermédiaires qui peuvent apporter des informations, etc.
Et Focard prête attention à tous les détails. Un exemple assez significatif de cela, c'est qu'il recommandait à ses informateurs de faire accompagner les électeurs guyanais aux urnes par des hommes de confiance, pour être certain, bien sûr, qu'ils n'oublient pas de voter.
Sa méthode est innovante. Même si elle n'a pas du tout marché aux Antilles, le RPF connaît un désastre électoral, Focard a été repéré par De Gaulle et par les responsables politiques. Et il devient ainsi secrétaire général du RPF en 1954. C'est alors qu'il commence de façon très active à s'occuper des affaires africaines.
Bon, pas de bol pour lui, le RPF est dissous un an plus tard.
C'est vrai, mais ça ne l'empêche pas de continuer à travailler au retour du général de Gaulle au pouvoir.
Bref, son expérience des années 40-50 aux Antilles et en Guyane l'a convaincu d'une chose. Les dom-toms, et plus largement les anciennes colonies encore liées à la France, sont un élément essentiel de la grandeur nationale.
Il aura enfin l'occasion d'accéder à toutes les ressources du pouvoir et de chercher à satisfaire l'ambition d'une France puissante. En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir. Et naturellement, qui appelle-t-il à ses côtés pour traiter des affaires africaines et malgaches ? Jacques Focard.
André Lemaignan, entrepreneur et ami personnel de l'empereur centrafricain Bokassa.
Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 58, il a tout de suite rappelé Focard et il lui a dit « Monsieur Focard, j'ai besoin de vous, bien mon général. Je vais vous confier une mission qui est celle-ci. Je vais décoloniser parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc je décolonise et je voudrais que vous vous en chargez. Mon général, à vos ordres. Et Focard, pour ceci, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner tout l'argent que vous voudrez. Vous n'en référez qu'à moi. Et l'autre main sur les services secrets français.
En pleine guerre d'Algérie, la position de Charles de Gaulle évolue lentement vers l'autodétermination, puis enfin l'indépendance de l'Algérie. Dès lors, la France n'a plus accès au pétrole du Sahara. Il faut donc se tourner vers l'ancien empire colonial français d'Afrique noire pour entamer des liens forts. Cela permettra à la France d'assurer son indépendance énergétique.
C'est ce qui sera en premier lieu le rôle de Focard, conseiller technique à l'hôtel Matignon chargé des affaires africaines. Mais très vite, il prend un autre titre. Il devient secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches.
Cette évolution montre son importance auprès du général de Gaulle. En effet, Focard est en position de grande influence. Il rencontre de Gaulle tous les jours à 19h pour lui faire un point d'un quart d'heure sur l'évolution de la situation en Afrique.
Ces rendez-vous quotidiens servent à affiner la politique du général de Gaulle. Celui-ci essaye d'intervenir dans le processus de décolonisation pour parvenir à des indépendances dans l'interdépendance. Il crée d'abord, avec la constitution de 1958, la communauté française, qui a comme ambition de fonctionner un peu comme un État fédéral, mais ça se conclut par un échec.
Oui, plus exactement, la communauté est une période de transition vers l'indépendance. De Gaulle essaie d'éviter les ruptures complètes et c'est en cela que Focard est très précieux. Il assure la bonne transmission des ordres du président et inversement, il le tient régulièrement informé. Focard devient ainsi les yeux et les oreilles de Charles de Gaulle en Afrique, tout en servant d'intermédiaire privilégié entre lui et ses homologues africains.
Car la méthode de Focard est assez directe. Il ne cherche pas à conserver des relations cordiales lointaines, qu'on réactiverait de temps à autre. Non, il assure des rapports personnels, quasi amicaux, entre De Gaulle et les chefs d'État africains que lui, Focard, connaît bien. Du fait de son action, les affaires africaines et malgaches deviennent une forme de domaine réservé à la présidence de la République. Ainsi, Focard se trouvera souvent opposé aux positions du ministère des Affaires étrangères. Et généralement, c'est lui qui aura le dernier mot auprès du président, que ce soit De Gaulle ou plus tard, Pompidou. Focard s'est imposé à son poste de façon brillante, et ça lui permet de se montrer comme « Monsieur Afrique ». Là encore, il joue beaucoup avec son image médiatique. Il dit peu, raconte peu, mais laisse entendre qu'il sait beaucoup. Se constitue alors un mythe autour de lui. On imagine un homme prêt à tous les coups bas pour arriver à ses fins, un homme qui sacrifie la morale et les valeurs sur l'autel des calculs politiques. Et effectivement, cette fiction n'est pas si loin de la réalité. Focard est très efficace dans son travail, et c'est sans aucun état d'âme qu'il soutient les uns et déstabilise les autres, voire renverse les autres. Maintenant qu'il est au pouvoir, il a un accès quasi illimité aux renseignements des services secrets de l'État. Au fond, Focard devient le moyen le plus rapide, le plus direct, le plus compétent pour De Gaulle pour peser sur les affaires africaines. Le côté noir de la méthode Focard, c'est justement que son côté direct et efficace passe parfois par de la violence. En effet, le but de Focard est de rendre les chefs d'État africains dépendants de la volonté de la France pour leur maintien au pouvoir. Et Focard n'hésite pas à organiser des interventions militaires, notamment pour des coups d'État, destitution d'un ancien dirigeant, installation d'un nouveau qui soit acquis à la cause de la France. Mais au fond, il reste assez peu de traces des violences possibles organisées par Focard. Il avait déjà été cité pendant la Seconde Guerre mondiale pour deux affaires criminelles, mais qui sont restées des énigmes. De même, les archives qu'il a léguées à la postérité ne donnent pas suffisamment de renseignements sur toutes les conspirations dont il est à l'origine. Oui, parce que Focard ne préparait pas toutes ses intrigues sur de petites notes ou des dossiers volumineux. Il y avait aussi des entretiens téléphoniques dont il est impossible de trouver la retranscription. Mais surtout, c'était les entrevues secrètes et privées qui étaient les plus propices à des avancées significatives. Bref, il semble que l'action de Focard ne pourra jamais être entièrement élucidée. De même, ses motivations nombreuses et variées pour telle ou telle conspiration resteront en grande partie un mystère.
Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only
Après le temps de la décolonisation, le but de Focard, c'est donc de maintenir la coopération entre la France et les chefs d'État africains. Et pour cela, il met en œuvre ce qu'on appellera progressivement la France-Afrique.
La France-Afrique, c'est un concept qui consiste dans la continuation des interventions françaises en Afrique, malgré la décolonisation. Le but est de préserver ce que De Gaulle appelait le précaré de la France.
Ce précaré, c'est l'idée que les anciennes dépendances françaises forment un ensemble qu'il faut harmoniser, et surtout qu'il faut préserver des influences extérieures, notamment américaines ou communistes.
Comment ça se manifeste ? Eh bien, avant tout, par des accords de coopération secrets entre la France et les pays venus signer leur indépendance. D'abord, des accords donnant à la France une priorité commerciale sur les matières premières par rapport à d'autres pays. Ensuite et surtout, des accords prévoyant que les présidents africains pourront demander l'intervention militaire de la France pour défendre leur pays face à tout type d'agression extérieure ou intérieure.
Dès lors, se trouvent intrinsèquement liés la sécurité des pays africains, les intérêts en matière première de la France et l'aide militaire française potentielle. On a bien affaire à un système créé par Focard et qui se renouvelle constamment, et même encore jusqu'aux présidents les plus récents dans l'histoire française. La France-Afrique, c'est la mise en place et la perpétuation de ce système de liens privilégiés entre la France et les pays africains, malgré la fin de l'Empire colonial.
Mais alors, comment ça se traduit concrètement ? On peut prendre l'exemple du Gabon. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, le président gabonais Léon Mba est enlevé. On le force à annoncer sa destitution. Or, la France est amie avec ce président qui déclarait que les Gabonais avaient deux patries, le Gabon et puis la France.
Focard réagit très vite. La nuit même de l'enlèvement, il commence à prendre des mesures pour mettre en œuvre la restauration au pouvoir de Léon Mba. De Gaulle n'apprendra et n'approuvera ses décisions que le lendemain matin. Un jour plus tard, les parachutistes français s'emparent du palais présidentiel gabonais. Léon Mba est retrouvé et remis à la tête du pays. Focard a donc réussi en moins de 3 jours à contrer le coup d'État au Gabon.
Mais il va encore plus loin. Il cherche à s'assurer que le président du Gabon restera à long terme dans les mains d'un ami de la France. Et pour cela, il va encourager fortement Léon Mba à réformer la constitution gabonaise pour créer le poste de vice-président. Le vice-président devient automatiquement président à la mort ou la destitution du président en exercice. Le premier vice-président du Gabon, c'est Omar Bongo, qui est sous la coupe et l'influence de Jacques Focard.
Bref, ce qu'a toujours cherché à faire Jacques Focard, c'est affermir le pouvoir des chefs d'État amis de la France.
Le but est bien entendu de renforcer le poids de Charles de Gaulle dans les relations internationales. Jacques Focard est un inconditionnel du général. La preuve, c'est qu'il a participé à la fondation, en 1960, du service d'action civique, le SAC. Parmi les autres fondateurs, on trouve notamment Charles Pasqua.
Le SAC est concrètement une organisation paramilitaire informelle, une forme de milice secrète. Le SAC a recruté ses membres chez les anciens gaullistes, dans la police aussi, dans l'armée parfois. Mais il est surtout connu pour son nombre important de personnes peu scrupuleuses. On soupçonne régulièrement ses membres de violences politiques et ils sont assez souvent impliqués dans des affaires d'agression, voire de meurtre.
Surtout, le SAC occupait le rôle du service d'ordre et de surveillance du parti gaulliste. Jacques Focard est informé de tout grâce aux responsables départementaux.
Bref, on voit qu'avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, Focard a diversifié ses activités et ne s'est pas concentré uniquement sur les affaires extérieures. Il s'occupe aussi de la situation intérieure, notamment de l'attitude à tenir face aux opposants politiques.
Focard s'est véritablement imposé comme un technicien des services secrets. Il a su donner à toutes ses actions l'atmosphère de la clandestinité, le climat du roman policier.
On peut ainsi dire que l'homme qui avait la pleine confiance du général de Gaulle symbolise à lui seul la politique africaine de la France pendant les années 60 et 70 et qu'il a clairement influencé ses successeurs sur la posture de la France face à ses anciennes colonies.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la web. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies.
On pense encore à toi, au point.
Café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Guana. Dis-nous, c'était
monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Au temps béni des colonies,
on pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.
On pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. La 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 la.
Moi, monsieur, j'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger et des hippos dans l'Ubangui, au temps béni des colonies. Entre le gin et le tennis, les réceptions et le pastis, on se serait cru au paradis. Au temps béni des colonies,
on pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, mon Anna.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous. On pense,
on pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous. On pense,
on pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a.
Vous écoutez Les Hommes de l'Ombre avec Michel Sardou et Le Temps des Colonies sur Radio Campus Paris.
Le rôle de Jacques Faucard continue de façon relativement similaire sous le mandat de Georges Pompidou. Mais avec Valéry Giscard d'Estaing qui devient président en 1974, Faucard est remercié et écarté du pouvoir.
C'est un pan de l'histoire de la politique française en Afrique qui se tourne, même si Faucard a naturellement influencé ses successeurs. C'est d'ailleurs celui qui fut un de ses conseillers techniques, René Journiac, qui lui succède auprès du nouveau président.
La différence avec Faucard tient peut-être dans les objectifs de fond. Pour Faucard, le plus important est moins de lancer une opération spectaculaire que de mener un travail d'influence quotidien. Au contraire, Journiac multiplie les interventions militaires au nom des accords de défense et de coopération.
Mais Faucard n'en a pas pour autant fini de jouer son rôle sur la scène politique. En 1986, au moment de la première cohabitation avec Jacques Chirac comme Premier ministre, il est nommé conseiller privé aux affaires africaines et malgaches à l'hôtel Matignon. En 1988, il cesse officiellement ses activités de conseiller politique. Et 9 ans plus tard, le 19 mars 1997, Faucard décède.
C'est un personnage de la Ve République qui a disparu ce matin. Jacques Faucard était le monsieur Afrique du général de Gaulle, un personnage controversé, qui avait été également secrétaire général du RPF.
En vieux sage, Jacques Faucard recevait encore nombre de visiteurs. Il disparaît au moment même où la politique de la France en Afrique, via la crise zaïroise, est mise à mal.
Que reste-t-il de Jacques Faucard aujourd'hui ? L'ami des chefs d'État africains, et notamment du président ivoirien Félix Oufouyette-Boigny, reste une figure controversée. Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée, l'a ainsi accusé d'être un comploteur et un faiseur de coups d'État.
Mais on ne peut pas réduire de cette manière l'action de Faucard à celle d'un simple intrigant. Il a réussi durant 14 ans à créer une cohérence dans la politique française en Afrique. Son rôle illustre le choix gaulliste de placer la relation personnelle au premier plan des liens franco-africains.
Choix gaulliste parce que ce fut à la fois le choix du général de Gaulle, mais aussi de son successeur Georges Pompidou. Faucard n'a fait que suivre la politique générale de ceux-ci, en l'adaptant bien sûr à chaque fois au contexte. Mais à aucun moment il n'a lui-même exprimé une vue de politique générale.
Et on peut sans doute l'expliquer par le fait qu'il conçoit au fond la vie politique comme un décor en trompe-l'œil, où tout se règle en réalité dans les coulisses, entre gens du même bord, la main sur le portefeuille ou sur le revolver selon les cas.
Et c'est ainsi qu'avec son esprit secret et calculateur, il a su créer et perpétuer l'image du grand ordonnateur de la politique africaine de la France. Cette vision, à l'évidence, s'est progressivement imposée avec le temps, et cela a fait de Faucard l'objet de fantasmes autour de son personnage de Monsieur Afrique.
Cette éminence grise est apparue pour les Africains comme le bras droit de Charles de Gaulle, voire comme de Gaulle lui-même. À l'heure des indépendances et de la décolonisation, il a su maintenir la présence de la France en Afrique pour satisfaire les intérêts de son pays. Avec lui, le nouveau mot qui doit succéder à empire colonial est plus prosaïque, mais tout aussi important. C'est le parapluie atomique, la protection par des accords militaro-politiques. Trop longtemps, il a été reproché à Focard son secret. Mais la loi de la discrétion était parfois indispensable pour réussir certaines opérations politiques. Toutefois, Focard n'a pas seulement été critiqué sur la forme, mais aussi sur le fond. On l'a accusé d'architecte du néocolonialisme, prêt à multiplier les interventions militaires sur le continent africain.
S'il n'est pas complètement fausse, cette réputation est un peu exagérée. Pour Focard, les interventions militaires ont moins d'importance que les services de renseignement et de sécurité.
Avec Focard, le renseignement est au cœur du pouvoir, prêt à aider les présidents africains tant qu'ils jouent l'amitié franco-africaine. L'information constitue le levier principal de leur sécurité politique.
Les secrets de ce gaulliste fervent ont commencé à être pénétrés, et d'ailleurs, lui-même a légué d'abondantes archives à la postérité. Tâche maintenant aux chercheurs d'écrire l'histoire complète de Focard, l'histoire de son influence, l'histoire de ses idées, l'histoire de ses projets, l'histoire de ses actions, une histoire qui, aujourd'hui encore, reste bien difficile à déchiffrer.
Les Hommes de l'Ombre, un vendredi sur deux à 14h sur Radio Campus Paris.